On va vous donner la bienvenue à Denis Didier Rousseau. Il est directeur de la recherche au CNRS, basé au laboratoire de météorologie dynamique à ENS. Et il est délégué scientifique en charge des affaires polaires au CNRS et directeur scientifique du chantier Arctique. Il va nous expliquer la publication scientifique Open Access à l'Union européenne des géosciences, la EGU, avec des exemples pris dans le journal Climate of the Past. Denis Didier, the floor is yours.
Bonjour, donc je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir invité à présenter quelque chose qui existe déjà depuis 2001. C'est un modèle donc, qui a été développé dans une union scientifique européenne. Donc là, on parle d'un autre type d'organisme. Je suis en charge d'un des journaux de cette union qui s'appelle donc European Geosciences Union. Et le journal dont j'ai la responsabilité s'appelle Climate of the Past. Alors juste pour faire une brève introduction de ce qu'est European Geoscience Union, c'est donc une union scientifique européenne qui a été créée en 2002 et qui est née de la fusion de deux précédentes unions. C'est donc une union qui veut développer tout ce qui est géosciences au niveau européen, qui se veut l'interlocuteur en géosciences. Alors, c'est un meeting qui a lieu tous les ans, qui regroupe environ 12 000 participants. Et c'est une union qui est constituée de 22 divisions, qui sont les différents champs disciplinaires en géosciences. Et vous voyez que dans la dernière ligne, cette union a créé 16 journaux en open access. Donc, on est déjà bien avancé sur la question. Et bien sûr, cette union est signataire de la déclaration de Berlin. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? En fait, il y a eu des discussions précédentes au sein de cette union et des unions qui l'ont précédée. Les unions précédentes avaient développé des publications en relation avec des éditeurs classiques comme Springer, et c'était des journaux qui étaient reconnus dans leur discipline. Mais il y a eu un besoin, une volonté de se séparer de cette association avec les éditeurs classiques pour justement essayer de proposer quelque chose de totalement différent à la communauté scientifique. Et la personne qui a été visionnaire dans ce travail est M. Arne Richter, qui vous avez ici à l'écran, qui est malheureusement décédé cette année, qui a voulu complètement changer le format de collaboration avec les éditeurs classiques et proposer au sein de l'Union de développer quelque chose de nouveau, de lancer des journaux qui soient en réel open access, où tout soit réellement accessible, que ce soit au niveau publication, que ce soit au niveau de l'évaluation de ces papiers. Donc, pour lui, jusqu'à présent, tout était fait sur papier, et sa vision initiale, c'était justement de pouvoir tout faire en ligne et de tout mettre en ligne et que tout puisse être accessible en ligne. C'est donc pour ça qu'à partir de 2000, M. Richter étant le secrétaire exécutif de cette union, il était décidé de démarrer des publications dans un autre format open access, qui soit donc accessible à tout le monde. Alors, vous avez ici les 16 journaux qui sont actuellement disponibles, qui sont accessibles en ligne, qui sont open access, et pour lesquels vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Ces différents journaux correspondent aux différentes divisions qui existent au sein de l'Union. On encourage chaque division à essayer de développer son propre journal. Donc vous avez ici, par exemple, le journal qui s'appelle Climate of the Past, dont je m'occupe. Il est né au sein de la division Climat. Vous avez un journal récent qui vient d'être lancé récemment, qui s'appelle Soil, qui lui vient de la division de pédologie. Donc, et ainsi de suite, il y avait une réelle volonté de couvrir tous les champs disciplinaires en géosciences avec un journal open access. Donc c'est l'objectif, c'est vraiment de développer quelque chose qui règne dans l'excellence, qui soit gratuit et qui ait une accessibilité qui soit totalement universelle. Pour cela, il y a une stratégie de publication qui a été clairement établie, qui veut qu'il y ait toujours le système du peer review, avec au moins 2 reviewers indépendants. Je vous expliquerai comment ça fonctionne après. Lorsque vous soumettez votre papier à un journal, il est automatiquement mis en ligne, donc il est immédiatement en open access. Et parce qu'il faut bien payer l'open access, il y a des frais de page qui existent, mais pendant 3 ans, les frais de page au lancement d'un journal sont gratuits, sont pris en charge par l'Union scientifique. Il n'y a pas de, vu que tout est en ligne et que tout est en PDF, il n'y a pas de frais de couleur comme ça peut exister dans certains journaux qui font un profit énorme justement par ce biais-là. Et puis le dernier point qui est important, c'est que tous les auteurs conservent leur copyright puisque la publication est en Creative Commons License. Donc juste pour vous donner des chiffres, ils ne sont pas actualisés. Mais en 2013, l'Union avait publié 6 000 articles. Vous voyez que ça représentait à peu près 18 000 auteurs de 123 pays différents. Donc le côté international, le côté ouvert est vraiment évident. Et dans chaque journal, vous avez un comité éditorial et l'ensemble de ces comités éditoriaux représente 840 éditeurs. Et donc tous ces journaux sont publiés non pas par l'Union qui est propriétaire des journaux, mais par un éditeur qui s'appelle Copernicus Publication, qui est lui une maison d'édition qui s'est spécialisée dans l'open access. Alors pour vous montrer un peu, pour vous essayer de vous convaincre sur la dissémination et l'acceptation par la communauté scientifique, vous voyez que les différentes nations et les grandes nations dans nos domaines sont représentées, que bien sûr les États-Unis sont les plus grands pourvoyeurs de papier, mais dans les pays en émergence, à l'extrême gauche, là vous voyez la flèche à l'extrême gauche, vous voyez que la Chine commence à être intéressée par ce modèle et justement commence à soumettre des papiers et à publier fortement. Dans la mesure où l'incitation des collègues chinois est de publier dans des revues qui sont à impact factor reconnu, et la plupart des journaux qui sont publiés par cette union ont un impact factor qui est élevé. Enfin, du moins, ce qu'on appelle élevé dans nos disciplines. Vous voyez aussi qu'à chaque fois qu'on lance un journal, il a un démarrage qui est relativement lent, mais qu'à chaque fois, on a une espèce de progression qui est évidente et que le graphique parle par lui-même, c'est toujours en progression. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et ça prouve aussi que la communauté scientifique, non seulement européenne, mais maintenant internationale, est intéressé par ce modèle et a vraiment accepté le modèle de publication que je vais vous présenter. Et ça, c'est un point important, justement, suite aux présentations précédentes, pour justement montrer l'intérêt de la communauté scientifique. Alors, comment est-ce qu'on... Les aspects novateurs, c'est à la fois le peer review classique, sauf que les rapporteurs peuvent être anonymes, mais autrement ils peuvent se déclarer, mais qu'il y a une phase qui est interactive de discussion en public. Donc c'est aussi quelque chose qui a été présenté précédemment. Il y a une évaluation qui se fait rapidement, donc sous forme d'une publication d'un papier de discussion. Il y a une discussion interactive, et ça aussi, je vais vous le présenter. Donc, pendant la phase d'évaluation, vous pouvez commenter un papier qui est soumis, vous pouvez commenter les rapports des rapporteurs, Vous pouvez échanger entre auteur et rapporteur, entre communauté, rapporteur, auteur et éditeur. Tout cela se fait en open access et en ligne. Les seules personnes qui peuvent éventuellement rester anonymes pendant cette phase de discussion sont les rapporteurs quand ils le demandent. Autrement, toute intervention pendant la phase de discussion, votre nom est communiqué et donc vous ne pouvez pas faire un commentaire complètement débile qui serait caché sous l'anonymat. Vous êtes automatiquement identifié et à ce moment-là, c'est l'éditeur qui joue le rôle de modérateur de la discussion. Et donc les papiers sont révisés et il y a une acceptation finale comme dans un processus classique. Donc ça, tout ça, c'est quelque chose, c'est un modèle qui existe depuis donc 2001, qui a été mis en place et donc accepté. Et tout cela, c'est pour essayer d'améliorer et d'encourager la discussion scientifique, aussi d'essayer de maximiser l'efficacité, la transparence de la qualité scientifique. Essayer aussi d'avoir encouragé et renforcé une publication qui soit rapide de résultats nouveaux. Et enfin, de rendre ces publications scientifiques totalement gratuites et d'un accès facile pour tous. Alors, vous avez là le schéma plus ou moins classique de la manière dont on soumet un papier quand on soumet dans une maison, dans un journal, disons, classique, où l'auteur soumet son papier. Il y a un éditeur qui va être en charge du papier. Et vous avez toute une phase qui est obscure, qui s'appelle l'évaluation, durant laquelle tout peut se passer. L'auteur n'est au courant de rien. Il est juste à la fin, il reçoit un message de l'éditeur qui lui dit c'est bon, c'est pas bon, et voilà. Donc en fait, c'est le schéma plus ou moins classique, avec à la fin une publication d'un papier. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant la phase d'évaluation. Les rapports, puisque c'est un lien direct entre l'éditeur et l'auteur, bien souvent, vous pouvez avoir des rapports qui sont critiquables et fortement critiqués. Mais comme tout ça, c'est caché, vous n'aurez jamais l'accès à ce type d'informations. Éventuellement, vous ne pourrez pas la critiquer. Et donc, tout est possible. Ce qui arrive malheureusement souvent. Dans le schéma qui est développé dans l'Union, un auteur va soumettre un papier, tout se fait en ligne, donc vous soumettez votre papier en ligne, et là, il y a pour chaque journal, dans le comité éditorial, le système va faire un appel à éditeurs, et le premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire qu'un éditeur va décider de prendre en charge un papier. Donc cet éditeur va regarder la qualité scientifique du papier, si le papier correspond plus ou moins aux attendus du journal, seulement ça. Et si ça, c'est effectivement ce qui correspond aux attendus du journal, il va commencer à rechercher des rapporteurs pour l'évaluation dite classique du papier. Mais en même temps qu'il va faire cette recherche, le papier va être mis en ligne et donc accessible à tout le monde. Et pendant cette phase où il est accessible à tout le monde, il va pouvoir y avoir des commentaires de la communauté scientifique. Donc c'est le point 5 ici. Et ça se passe pendant 8 semaines. Pendant 4 semaines, vous avez l'évaluation par les rapporteurs. Et pendant 8 semaines, vous pouvez avoir cette évaluation, cet échange avec la communauté scientifique. Échange. Et vous voyez que comme tout ça est ouvert, quand les rapporteurs vont émettre leur rapport, le rapport sera mis sur le site, en ligne, et accessible à tous. Donc la communauté scientifique va pouvoir commenter le papier, mais va pouvoir commenter les rapports, et éventuellement l'auteur va pouvoir commencer un dialogue avec ses rapporteurs, avec l'éditeur, avec la communauté scientifique. Et tout ça se fait pendant 8 semaines en gros. Au bout d'une semaine, le processus est bloqué, pardon, et l'éditeur intervient auprès de l'auteur, va commencer à discuter avec lui, lui demander de faire des réponses, et après, l'éditeur va prendre sa décision. Donc, ce qui a été plus ou moins expliqué tout à l'heure par le premier intervenant, c'est quelque chose que l'on fait déjà ici, dans ce processus. mais c'est au sein donc d'un journal et tous les journaux fonctionnent de la même manière. Donc là, un point qui a été introduit récemment, c'est que auparavant, au niveau de la décision de l'éditeur d'accepter ou de rejeter un papier, quand il acceptait en demandant d'améliorer, de réviser le papier original, l'évaluation n'était pas mise en ligne. Mais depuis cette année, même les rapports qui sont faits par la suite de cette phase de discussion, si un éditeur demande des révisions majeures, par exemple, les rapports sont aussi mis en ligne maintenant, dorénavant, de manière à ce qu'il y ait vraiment une traçabilité et une transparence qui est la plus totale. Donc toutes ces informations sont en ligne, et une fois qu'un papier est publié, tout reste en ligne et tout reste accessible. Et quand un papier est rejeté, le papier est également, toute l'information est disponible pour qui que ce soit. Donc c'est vraiment un processus et un modèle qui a au début effrayé les collègues américains, parce que c'était vraiment quelque chose qui était totalement différent avec leur vécu. Et puis le côté, la pression académique faisait que d'avoir des papiers qui étaient en ligne comme ça et critiqués directement, c'est quelque chose qui était difficile pour eux. Ça a été fortement soutenu par la communauté européenne. Mais maintenant, les Américains y viennent et le journal, enfin les journaux en général, mais je parle du mien pour avoir vécu toute l'histoire depuis 2005, les collègues américains se sont mis à ce modèle et sont des ardents défenseurs de ce fonctionnement. Donc juste pour vous convaincre aussi, on a des frais de page, parce que c'est des frais, il faut bien sûr payer la publication quand même et tout l'environnement. Et c'est pour l'instant quelque chose qui était un peu problématique parce que les frais de page étaient appliqués au niveau de la phase de discussion. Mais c'est en train de changer. Ça va être changé au moins à partir de 2016. Donc c'est juste pour l'anecdote. Mais il existe quand même des frais de page parce que c'est quelque chose dont on a besoin puisque c'est une union scientifique et qu'il n'y a pas de soutien institutionnel. Alors au niveau de la dissémination et de l'archivage des journaux, donc, il y a un certain nombre d'accords qui avaient été passés. Le premier accord, j'ai volontairement mis cette slide ici, c'est le premier accord avait été passé par la Max Planck Society dans la mesure où elle avait décidé de prendre en charge les frais de publication pour ses propres chercheurs. Par contre, le deuxième accord qui avait été signé, c'était l'accord du CNRS. Et là, c'était l'INSU, donc l'Institut National des Sciences de l'Univers, qui prenait en charge toutes les publications par tous les chercheurs, étudiants, appartenant à des laboratoires affiliés à l'INSU. Mais vous voyez que depuis, d'autres associations ont repris... le CNRS s'est malheureusement retiré de ce type de contrat, mais d'autres ont suivi l'exemple du CNRS au moment où le CNRS s'est retiré. Et donc, vous voyez que c'est un modèle qui, justement, est accepté par un certain nombre d'établissements. Et pour l'archivage, bah, c'est archivé dans les bases de données classiques. Et donc, tout se passe comme dans une revue classique. Juste aussi pour vous donner une idée, vous voyez que l'impact factor des différents journaux est quelque chose de conséquent. Et qu'en règle générale, vous avez deux populations de journaux, ceux qui sont au-dessus de 3 et d'autres qui sont en dessous. Mais c'est toujours quelque chose qui est en progression. Donc, j'ai bientôt terminé. Donc, ça, c'est pour vous montrer mon journal, parce que je suis quand même venu vous en parler un petit peu. On a fêté cette année ses 10 ans, donc c'est quelque chose d'important. Et pour vous donner des chiffres, bah vous voyez l'impact factor de 2014. En 2014, on a publié 151 papiers, 156, pardon. Le taux de rejection, c'est toujours quelque chose qui peut être intéressant, il est de 20%. On crée aussi des numéros spéciaux, mais et à la différence d'une revue classique, c'est que comme vous publiez tout en ligne, le numéro spécial, eh ben, il se construit au fur et à mesure que les articles sont sortis. Donc, quand vous avez des jeunes chercheurs qui, en général, publient rapidement par rapport à des seniors qui prennent leur temps, on va dire, la publication de ce numéro spécial n'est pas retardée par justement le senior qui va fournir son papier au tout dernier moment, voire beaucoup plus tard. Là, tout est en ligne, donc le papier il est sorti. Vous voyez que le comité éditorial est composé de 30 collègues. Ça fait 10 ans qu'on a été créé. Et voilà, en général, le taux de publication, c'est 219 entre la soumission et l'acceptation finale, 219 jours. Donc ça fait un peu plus de 7 mois. Voilà, juste le nombre de papiers, vous voyez la progression des publications de papiers et puis la progression aussi des citations. Donc c'est quelque chose d'important aussi pour vous montrer que la communauté est derrière et soutient fortement ce modèle. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier et félicitations pour votre journal et vos efforts sur la transparence.
Bonjour, merci. Vous n'avez pas été très très détaillé sur les APC. Donc je me suis permis de les regarder un peu sur le site du coup, mais donc le prix par page ça va de, je sais pas, dans les 10-15 dollars jusqu'à 90-100, mais j'ai pas de notion de la longueur d'un article moyenne dans votre discipline, et ça a un rôle très important évidemment sur le prix global qu'on paye.
Oui, c'est très variable, mais en général c'est de l'ordre de 1000-1500 euros.
D'accord.
Merci. Je suis Solène Billan de l'université Lille 2. Je voudrais savoir dans quelle mesure ce modèle est spécifique à votre communauté de géosciences, parce qu'il me semble que pour avoir le temps de participer à un peer review ouvert, il faut que ce soit une communauté scientifique assez restreinte dans laquelle il y a finalement un volume de publications assez modéré. Enfin, moi, je me réfère à l'exemple plutôt des sciences biomédicales. Ce modèle me semble très difficilement transposable, étant donné que les chercheurs ont déjà assez peu de temps pour lire les articles qui sont publiés sans lire ceux qui sont en cours de publication et éventuellement rejetés à la fin.
Bah, vous voyez que la communauté, c'est la communauté internationale, donc c'est à European Geoscience. Vous avez à chaque congrès, vous avez 12 000 participants. Si vous prenez du côté américain, où vous avez une union qui est similaire, c'est American Geophysical Union, c'est 26 000 participants. C'est une communauté qui est relativement large quand même. Et ce qui est intéressant, c'est le fait de tout mettre en ligne. Et là, par contre, vous commencez à toucher les pays émergents parce que tout est gratuit. Et donc, vous pouvez vraiment, on a vu apparaître depuis quelques années un intérêt grandissant des pays asiatiques. Chine et Inde. Mais c'est quelque chose qui m'étonne pas du tout, par contre.
Mais qu'est-ce qui motive la communauté scientifique à participer à ce processus d'évaluation?
C'est justement le rejet des éditeurs classiques et le fait d'adhérer à un modèle qui est totalement différent. Tout pouvoir mettre en ligne et être en open access, c'est une réelle volonté. Il y a, en tant que chercheur, même si on est quelquefois malheureusement appelé à publier dans leurs journaux, il y a de plus en plus faut que je fasse attention parce que c'est filmé, il y a un rejet des maisons d'édition, des grosses maisons d'édition classiques.
Donc la toute petite question, c'est en rapport avec le taux de refus des articles pour votre revue. Il est finalement peu important, 20% c'est pas énorme, et je voulais savoir si justement le système de soumission, que tout soit directement en ligne, ça avait une incidence sur la qualité des papiers qui étaient soumis à la revue.
Oui, bien sûr, oui.
Et puis le système de peer reviewing, aussi totalement transparent, aide à améliorer les papiers, et de fait le taux de rejet est très...
Alors, on voit justement différentes communautés. Justement, je disais, on voit les collègues chinois qui débarquent chez nous et qui n'ont pas l'habitude de ce genre de fonctionnement. Et parce que les journaux, en l'occurrence le mien, je parle d'une expérience vécue, c'est un bon impact factor. Donc on est inondé maintenant par des papiers de collègues chinois qui essayent de placer leurs papiers parce qu'ils ont des intérêts chez eux à publier dans des bonnes, ou des incitations à publier dans des bons journaux. Et on reçoit aussi n'importe quoi. Donc malheureusement, quelquefois, on est obligé de rejeter dès la soumission parce que le papier n'est pas bon. Mais vous ne pouvez pas, a priori, dire comme ça qu'un papier n'est pas bon. Il faut le justifier, donc il faut le passer en évaluation. Donc les collègues, disons, occidentaux, savent très bien que s'ils soumettent un papier n'importe quoi dans une revue open access, ils vont être tout de suite critiqués. Et juste pour répondre très rapidement, je me rappelle d'un papier où un senior, quelqu'un dans notre communauté, est largement reconnu, qui acceptait mal que son papier ait reçu des rapports qui soient très critiques, alors que lui est bien établi, et qui a essayé de faire pression justement pour connaître le nom des rapporteurs. On n'a pas donné suite, mais c'est quelque chose qui justement marque le fait d'avoir des papiers de mauvaise qualité, qui est une mauvaise évaluation, dans la mesure où tout est disponible. C'est quelque chose d'important.
Merci. Un grand final applaudissement pour Denis Didier.